Le hasard qui perd les gens et le hasard qui les sauve firent des efforts égaux pour et contre Scar dans cette terrible matinée, mais il devait succomber avec un patron qui ne dépendait pas d'une affaire une fois entamée. En rentrant chez elle, Mariette, épouvantée de ce qui pouvait arriver aux pupilles de son frère, avait écrit à Godeschal un mot dans lequel elle mit un billet de 500 francs en prévenant son frère de la griserie et des malheurs venus à Oscar. Cette bonne fille s'endormit en recommandant à sa femme de chambre d'aller porter ce petit paquet chez Desroches avant 7 heures. De son côté, Godeschal, en se levant à 6 heures, ne trouva point Oscar. Il devina tout. Il prit 500 francs sur ses économies et courut chez le greffier chercher le jugement afin de présenter la signification à la signature de Desroches à 8 heures. Desroches, toujours levé dès 4 heures, entra dans son étude à 7 heures. La femme de chambre de Mariette, ne trouvant point le frère de sa maîtresse à sa mansarde, descendit à l'étude et y fut reçue par Desroches, à qui naturellement elle présenta le paquet. Est-ce pour affaire d'étude ? Demanda le patron. Je suis monsieur Desroches. Voyez, monsieur, dit la femme de chambre. Desroches ouvrit la lettre et la lut. En y voyant un billet de 500 francs, il rentra dans son cabinet furieux contre son second clerc. Il entendit à 7h30 Godeschal qui dictait la signification du jugement au deuxième premier clerc. Et quelques instants après, le baron Godeschal entra triomphant chez son patron. « Est-ce Oscar Husson qui est allé ce matin chez Simon ?» demanda Desroches. « Oui, monsieur, répondit Godeschal. « Qui donc lui a donné l'argent ?» fit l'avoué. « Vous, dit Godeschal, samedi. » « Il pleut donc des billets de 500 francs !» s'écria Desroches. « Tenez, Godeschal, vous êtes un brave garçon, mais le petit Husson ne mérite pas tant de générosité. Je hais les imbéciles, mais je hais encore davantage les gens qui font des fautes malgré les soins paternels dont on les entoure. » Il remit à Godeschal la lettre de Mariette et le billet de 500 francs qu'elle envoyait. « Vous m'excuserez de l'avoir ouverte, reprit la souveraine de votre sœur, m'a dit que c'était pour affaire d'études. » Vous congédierez Oscar. Oh, le pauvre petit malheureux m'a-t-il donné du mal, dit Godeschal. Ce grand vaurien de Georges Marest est son mauvais génie, il faut qu'il le fuit comme la peste, car je ne sais pas ce dont il serait cause à une troisième rencontre. Comment cela ? Dit Desroches. Godeschal raconta sommairement la mystification du voyage à Presles. « Ah ! Fit l'avoué, oui, dans le temps, Joseph Bridau m'a parlé de cette farce. Ah, c'est à cette rencontre que nous avons dû la faveur du comte de Sérusy pour monsieur son frère. » En ce moment, Moreau se montra, car il se trouvait une affaire importante pour lui dans cette succession vandenesse. Le marquis voulait vendre en détail la terre de vandenesse et le comte, son frère, s'y opposait. Le marchand de biens essuya donc le premier feu des justes plaintes, des sinistres prophéties que Desroches fulmina contre son ex-second clerc, et il en résulta chez le plus ardent protecteur de ce malheureux enfant cette opinion que la vanité d'Oscar était incorrigible. « Faites-en un avocat, dit Desroches, il n'a plus que sa thèse à passer, et dans ce métier-là, ses défauts deviendront peut-être des qualités. » En ce moment, Clapart, tombé malade, était gardé par sa femme, tâche pénible, devoir sans aucune récompense. L'employé tourmentait cette pauvre créature qui jusqu'alors ignorait les atroces ennuis et les taquineries venimeuses que se permet dans le tête-à-tête de toute une journée à un homme imbécile admis et que la misère rendait sournoisement furieux. Enchanté de fourrer une pointe acérée dans le coin sensible de ce cœur de mère, il avait en quelque sorte deviné les appréhensions que l'avenir, la conduite et les défauts d'Oscar inspiraient à la pauvre femme. En effet, quand une mère a reçu de son enfant un assaut semblable à celui de l'affaire de Presles, elle est en détrance continuelle. Et à la manière dont sa femme vantait Oscar, toutes les fois qu'il obtenait un succès, Clapart reconnaissait l'étendue des inquiétudes secrètes de la mère, et il les réveillait à tout propos. Enfin, Oscar va mieux que je l'espérais, je me le disais bien, son voyage à Presles n'était qu'une inconséquence de jeunesse. Quels sont les jeunes gens qui ne commettent pas de fautes? Ce pauvre enfant, il supporte héroïquement des privations qu'il n'eût pas connues si son pauvre père avait vécu. Dieu veuille qu'il sache contenir ses passions, etc., etc. Or, pendant que tant de catastrophes se passaient rue de Vendôme et rue de Béthisy, Clapart, assis au coin du feu, enveloppé dans une méchante robe de chambre, regardait sa femme, occupée à faire à la cheminée de la chambre à coucher, tout ensemble le bouillon, la tisane de Clapart et son déjeuner à elle. Oh mon Dieu, je voudrais bien savoir comment a fini la journée d'hier. Oscar devait déjeuner au rocher de Cancale et aller le soir chez une marquise. Oh, oh, soyez tranquille, tôt ou tard le poteau rose se découvrira, lui dit son mari. Est-ce que vous croyez à cette marquise? Allez, un jeune homme qui a des sens, après tout, et des goûts de dépense, comme Oscar, trouve des marquises en Espagne à prix d'or. Il vous tombera quelque matin sur les bras avec des dettes. Vous ne savez qu'inventer pour me désespérer, s'écria Madame Clapart. Vous vous êtes plaint que mon fils mangeait vos appointements, et jamais il ne vous a rien coûté. Voici 2 ans que vous n'avez aucun prétexte pour dire du mal d'Oscar. Le voilà maintenant en second clerc. Son oncle et M. Moreau pourvoient à tout, et il a d'ailleurs 800 francs d'appointements. Si nous avons du pain durant notre vieux jour, nous le devrons à cet enfant. En vérité, vous êtes d'une injustice. Vous appelez mes prévisions de l'injustice, répondit aigrement le malade. En ce moment, on sonna vivement. Madame Clapart courut ouvrir et resta dans la première pièce avec Moreau, qui venait adoucir le coup que la nouvelle légèreté d'Oscar devait porter à sa pauvre mère. « Comment ? Il a perdu l'argent de l'étude ! » s'écria Madame Clapart en pleurant. « Quand je vous le disais ! » s'écria Clapart, qui se montra comme un spectre à la porte du salon où la curiosité l'avait attiré. « Mais qu'allons-nous faire de lui ? » demanda Madame Clapart, que la douleur rendit insensible à cette piqûre de Clapart. S'il portait mon nom, repartit Moreau, je le verrais tranquillement tiré à la conscription. Et s'il amenait un mauvais numéro, je ne lui paierais pas un homme pour le remplacer. Voici la seconde fois que votre fils commet des sottises par vanité. Eh bien, la vanité lui inspirera peut-être des actions d'éclat qui le recommanderont dans certaines carrières. D'ailleurs, 6 ans de service militaire lui mettront du plomb dans la tête. Et comme il n'a que sa thèse à passer, il ne sera pas si malheureux de se trouver avocat à 26 ans s'il veut continuer le métier du barreau après avoir payé, comme on dit, l'impôt du sang. Cette fois, du moins, il aura été puni sévèrement. Il aura pris de l'expérience et contracté l'habitude de la subordination. Avant de faire son stage au palais, il aura fait son stage dans la vie. Si c'est là votre arrêt pour un fils, dit Madame Clapart, je vois que le cœur d'un père ne ressemble en rien à celui d'une mère. Mon pauvre Oscar, soldat ! Aimez-vous mieux le voir se jeter la tête la première dans la Seine après avoir commis une action déshonorante ? Il ne peut plus être avoué. Alors le trouvez-vous assez sage pour le mettre avocat? En attendant l'âge de raison, que deviendra-t-il un mauvais sujet? Au moins, la discipline vous le conservera. Mais ne peut-il aller dans une autre étude? Son oncle Cardo lui paiera certainement son remplaçant. Il lui dédiera sa thèse. En ce moment, le bruit d'un fiacre, dans lequel tenait tout le mobilier d'Oscar, annonça le malheureux jeune homme qui ne tarda pas à se montrer. « Ah ! Te voilà, monsieur Jolicoeur ! » s'écria Clapart. Oscar embrassa sa mère et tendit à monsieur Moreau une main que celui-ci refusa de serrer. Oscar répondit à ce mépris par un regard auquel le reproche donna une hardiesse qu'on ne lui connaissait pas. « Écoutez, monsieur Clapart, dit l'enfant devenu homme, vous ennuyez diablement ma pauvre mère, et c'est votre droit. Elle est pour son malheur votre femme, mais moi, c'est autre chose. Me voilà majeur dans quelques mois. Or, vous n'avez aucun droit sur moi, quand même je serai mineur. On ne vous a jamais rien demandé. Grâce à monsieur que voici, je ne vous ai pas coûté 2 liards. Je ne vous dois aucune espèce de reconnaissance, ainsi laissez-moi tranquille. » Clopart, en entendant cette apostrophe, regagna sa bergère au coin du feu. Le raisonnement du second clerc et la fureur intérieure du jeune homme de 20 ans, qui venait de recevoir une leçon de son ami Godeschal, imposèrent pour toujours silence à l'imbécillité du malade. Un entraînement auquel vous eussiez succombé tout comme moi quand vous aviez mon âge, dit Oscar à Moreau, m'a fait commettre une faute que Desroches trouve grave et qui n'est qu'une peccadille. Je m'en veux bien plus d'avoir pris Florentine de la Gaîté pour une marquise et des actrices pour des femmes comme il faut que d'avoir perdu 1500 francs au milieu d'une petite débauche où tout le monde, même Godeschal, était dans les vignes du Seigneur. Cette fois, du moins, je n'ai nui qu'à moi. Me voici corrigé. Si vous voulez m'aider, monsieur Moreau, je vous jure que les 6 ans pendant lesquels je dois rester clair avant de pouvoir traiter se passeront sans. Ah, halte là, dit Moreau, j'ai 3 enfants et je ne peux m'engager à rien. Bien, bien, dit à son fils madame Clapart, en jetant un regard de reproche à Moreau. « Ton oncle Cardo. » « Il n'y a plus d'oncle Cardo, » répondit Oscar, qui raconta la scène de la rue de Vendôme. Madame Clapart, qui sentit ses jambes se dérober sous le poids de son corps, alla tomber sur une chaise de la salle à manger comme foudroyée. Oh, « Tous les malheurs ensemble !» dit-elle en s'évanouissant. Moreau prit la pauvre mère dans ses bras et la porta sur le lit dans la chambre à coucher. Oscar demeurait immobile et comme foudroyé. « Tu n'as plus qu'à te faire soldat, » dit le marchand de biens revenant à Oscar. Ce niais de Clapart ne paraît pas avoir 3 mois à vivre. Ta mère restera sans un sou de rente ? Ne dois-je pas réserver pour elle le peu d'argent dont je puis disposer ? Voilà ce qui m'était impossible de te dire devant ta mère. Soldat, tu mangeras du pain, et tu réfléchiras à la vie comme elle est pour les enfants sans fortune. Je puis tirer un bon numéro, dit Oscar. Après ? Ta mère a bien rempli ses devoirs de mère envers toi. Elle t'a donné de l'éducation, elle t'avait mis dans le bon chemin. Tu viens d'en sortir, que t'entrais-tu? Sans argent, on ne peut rien, tu le sais aujourd'hui. Et tu n'es pas homme à commencer une carrière en mettant habit bas et prenant la veste du manœuvre ou de l'ouvrier. D'ailleurs, ta mère t'aime, veux-tu la tuer? Elle mourrait en te voyant tomber si bas. Oscar s'assit et ne retint plus ses larmes qui coulèrent en abondance. Il comprenait aujourd'hui ce langage, si complètement inintelligible pour lui lors de sa première faute. Les gens sans fortune doivent être parfaits, dit Moreau, sans soupçonner la profondeur de cette cruelle sentence. Oh, mon sort ne sera pas longtemps, allez, si je tire après-demain, répondit Oscar. D'ici là, je résoudrai mon avenir. Moreau, désolé malgré son maintien sévère, laissa le ménage de la rue de la Cerisaie dans le désespoir. 3 jours après, Oscar amena le numéro 27. Dans l'intérêt de ce pauvre garçon, l'ancien régisseur de Presles eut le courage d'aller demander à M. le comte de Sérisy sa protection pour faire appeler Oscar dans la cavalerie. Or, le fils du ministre d'État, ayant été classé dans les derniers en sortant de l'école polytechnique, était entré par faveur sous-lieutenant dans le régiment de cavalerie du duc de Maufrigneuse. Oscar eut donc dans son malheur le petit bonheur d'être, sur la recommandation du comte de Sérisy, incorporé dans ce beau régiment, avec la promesse d'être promu fourrier au bout d'un an. Ainsi, le hasard mit l'ex-clerc sous les ordres du fils de M. de Sérisy. Après avoir langui pendant quelques jours, tant elle fut vivement atteinte par ces catastrophes, Madame Clapart se laissa dévorer par certains remords qui saisissent les mères dont la conduite était jadis légère et qui, dans leur vieillesse, inclinent au repentir. Elle se considéra comme une créature maudite. Elle attribua les misères de son second mariage et les malheurs de son fils à une vengeance de Dieu qui lui faisait expier les fautes et les plaisirs de sa jeunesse. Cette opinion fut bientôt une certitude pour elle. La pauvre mère alla se confesser, pour la première fois depuis 40 ans, au vicaire de Saint-Paul, l'abbé Gaudron, qui la jeta dans les pratiques de la dévotion. Mais une âme aussi maltraitée et aussi aimante que celle de Madame Clapart devait devenir simplement pieuse. L'ancienne Aspasie du directoire voulut racheter ses péchés pour attirer les bénédictions de Dieu sur la tête de son pauvre Oscar, et elle se voit donc bientôt aux exercices et aux œuvres de la piété la plus vive. Elle crut avoir attiré l'attention du ciel après avoir réussi à sauver M. Clapart, qui, grâce à ses soins, vécut pour la tourmenter. Mais elle voulut voir, dans les tyrannies de cet esprit faible, des épreuves infligées par la main qui caresse en châtiant. Oscar, d'ailleurs, se conduisit si parfaitement qu'en 1830, il était maréchal des logis chef dans la compagnie du vicomte de Sérisy, ce qui lui donnait la grade de sous-lieutenant dans la ligne, le régiment du duc de Maufrigneuse appartenant à la garde royale. Oscar Husson avait alors 25 ans. Comme la garde royale tenait toujours garnison à Paris ou dans un rayon de 30 lieues autour de la capitale, il venait voir sa mère de temps en temps et lui confiait ses douleurs, car il avait assez d'esprit pour comprendre qu'il ne serait jamais officier. À cette époque, les grades dans la cavalerie étaient à peu près dévolus aux fils cadets des familles nobles et les gens sans particules à leur nom avançaient difficilement. Toute l'ambition d'Oscar était de quitter la garde et d'être nommé sous-lieutenant dans un régiment de cavalerie de la ligne. Au mois de février 1830, Madame Clapart obtint par l'abbé Gaudron, devenu curé de Saint-Paul, la protection de Madame la Dauphine et Oscar fut promu sous-lieutenant. Quoiqu'au dehors, l'ambitieux Oscar parut être excessivement dévoué aux Bourbons, au fond du cœur, il était libéral. Aussi, dans la bataille de 1830, passa-t-il au peuple. Cette défection, qui eut une importance due au point sur lequel elle s'appara, valut à Oscar l'attention publique. Dans l'exaltation du triomphe au mois d'août, Oscar, nommé lieutenant, eut la croix de la Légion d'honneur et obtint d'être attaché comme aide de camp à Lafayette, qu'il fit avoir le grade de capitaine en 1832. Quand on destitua l'amateur de la meilleure des républiques de son commandement en chef des gardes nationales du royaume, Oscar Husson, dont le dévouement à la nouvelle dynastie tenait du fanatisme, fut placé comme chef d'escadron dans un régiment envoyé en Afrique lors de la première expédition entreprise par le prince royal. Le vicomte de Sérisy se trouvait être lieutenant-colonel de ce régiment. À l'affaire de la Bacta, où il fallut laisser le champ aux Arabes, M. de Sérisy resta blessé sous son cheval mort. Oscar dit alors à son escadron: « Messieurs, c'est d'aller à la mort, mais nous ne devons pas abandonner notre colonel. » Et il fondit le premier sur les Arabes, et ses gens électrisés le suivirent. Les Arabes, dans le premier étonnement que leur causa ce retour offensif et furieux, permirent à Oscar de s'emparer du vicomte, qu'il prit sur son cheval, en s'enfuyant au grand galop, quoique dans cette opération, tentée au milieu d'une horrible mêlée, il eut reçu deux coups d'yatagan sur le bras gauche. La belle conduite d'Oscar fut récompensée par la croix d'officier de la Légion d'honneur et par sa promotion au grade de lieutenant-colonel. Il prodigua les soins les plus affectueux au vicomte de Sérisy, que sa mère vint chercher et qui mourut comme on sait à Toulon des suites de ses blessures. La comtesse de Sérisy n'avait point séparé son fils de celui qui, après l'avoir arraché aux Arabes, le soignait encore avec tant de dévouement. Oscar était si grièvement blessé que l'amputation du bras gauche fut jugée nécessaire par le chirurgien que la comtesse amenait à son fils. Le comte de Sérisy pardonna donc à Oscar ses sottises du voyage à Presles et se regarda même comme son débiteur quand il eut enterré ce fils devenu fils unique dans la chapelle du château de Sérisy. Longtemps après l'affaire de la Macta, une vieille dame vêtue de noir, donnant le bras à un homme de 34 ans, et dans lequel les passants pouvaient d'autant mieux reconnaître un officier retraité qu'il avait un bras de moins et la rosette de la Légion d'honneur à sa boutonnière, stationnait à 8 heures du matin au mois de mai, sous la porte cochère de l'hôtel du Lion d'Argent, rue du Faubourg Saint-Denis, en attendant sans doute le départ d'une diligence. Certes, Pierre Rotin, l'entrepreneur des services de la vallée de l'Oise, et qui la desservait en passant par Saint-Leu, Taverny et l'Isle-Adam jusqu'à Beaumont, devait difficilement retrouver dans cet officier au teint bronzé le petit Oscar Husson qu'il avait mené jadis à Presles. Madame Clapart, enfin veuve, était tout aussi méconnaissable que son fils. Clapart, l'une des victimes de l'attentat de Fleschi, avait plus servi sa femme par sa mort que par toute sa vie. Naturellement, l'inoccupé, le flâneur Clapart, s'était campé sur son boulevard du Temple à regarder sa légion passer en revue. La pauvre dévote avait donc été portée pour 1 500 francs de pension viagère dans la loi rendue à propos de cette machine infernale en faveur des victimes. La voiture, à laquelle l'on attelait 4 chevaux, gris pommelés qui eussent fait honneur aux messageries royales, était divisée en coupés, intérieurs, ronde et impériale. Elle ressemblait parfaitement aux diligences appelées gondoles qui soutiennent aujourd'hui sur la route de Versailles la concurrence avec les 2 chemins de fer. À la fois solide et légère, bien peinte et bien tenue, doublée de fin drap bleu, garnie de stores à dessins mauresques et de couleurs en maroquin rouge, l'Hirondelle de l'Oise contenait 19 voyageurs. Pierre Autin, quoique âgé de 56 ans, avait peu changé. Toujours vêtu de sa blouse, sous laquelle il portait un habit noir, il fumait son brûle-gueule en surveillant deux facteurs en livrée qui chargeaient de nombreux paquets sur la vaste impériale de sa voiture. « Vos places sont-elles retenues ?» dit-il à Madame Clapart et à Oscar en les examinant comme un homme qui demande des ressemblances à son souvenir. Oui, deux places d'intérieur au nom de Bellejambe, mon domestique, répondit Oscar. Il a dû les prendre en partant hier au soir. Ah, monsieur est le nouveau percepteur de Beaumont, dit Pierrotin. Vous remplacez le neveu de monsieur Margueron. Oui, dit Oscar en serrant le bras de sa mère qui allait parler. À son tour, l'officier voulait rester inconnu pendant quelque temps. En ce moment, Oscar tressaillit en entendant la voix de Georges Marest qui cria de la rue. « Pierrotin, avez-vous encore une place ?»« Oh, il me semble que vous pourriez bien me dire « monsieur » sans vous déchirer la gueule !» répondit vivement l'entrepreneur des services de la vallée de l'Oise. Sans le son de voix, Oscar n'aurait pu reconnaître le mystificateur qui déjà deux fois lui avait été si fatal. Georges, presque chauve, ne conservait plus que trois ou quatre mèches de cheveux au-dessus des oreilles et soigneusement ébouriffé pour déguiser le plus possible la nudité du crâne. Un embonpoint mal placé, un ventre piriforme, altérait les proportions autrefois si élégantes de l'ex-beau jeune homme. Devenu presque ignoble de tournure et de maintien, Georges annonçait bien des désastres en amour et une vie de débauche continuelle par un teint couperosé, par des traits grossis et comme vineux. Les yeux avaient perdu ce brillant, cette vivacité de la jeunesse, que les habitudes sages ou studieuses ont le pouvoir de maintenir. Georges, vêtu comme un homme insouciant de sa mise, portait un pantalon à sous-pieds, mais flétri, dont la façon voulait des bottes vernies. Ses bottes à semelles épaisses, mal cirées, étaient âgées de plus de trois trimestres, ce qui à Paris équivaut à trois ans ailleurs. Un gilet fané, une cravate nouée avec prétention, quoique ce fût un vieux foulard, accusait l'espèce de détresse cachée à laquelle un ancien élégant peut se trouver en proie. Enfin, Georges se montrait à cette heure matinale en habit au lieu d'être en redingote, diagnostic d'une réelle misère. Cet habit, qui devait avoir plus d'un bal, avait passé, comme son maître, de l'opulence qu'il représentait jadis à un travail journalier. Les coutures du drap noir offraient des lignes blanchâtres, le col était graisseux, l'usure avait découpé les bouts de manches en dents de loup. Et Georges osait attirer l'attention par des gants jaunes un peu salis à la vérité, sur l'un desquels une bague à la chevalière se destinait en noir. Autour de la cravate, passée dans un anneau d'or prétentieux, se tortillait une chaîne de soie figurant des cheveux et à laquelle tenait sans doute une montre. Son chapeau, quoique mis assez crânement, révélait plus que tous ses symptômes la misère de l'homme hors d'état de donner 16 francs à un chapelier quand il est forcé de vivre au jour le jour. L'ancien amant de cœur de Florentine agitait une canne à pommes de vermeil ciselées mais horriblement bossuées. Le pantalon bleu, le gilet en étoffe dite écossaise, la cravate en soie bleue de ciel et la chemise en calicot rayée de bandes roses exprimaient au milieu de tant de ruines un tel désir de paraître que ce contraste formait non seulement un spectacle, mais encore un enseignement. Et c'est là, Georges, se dit intérieurement Oscar, un homme que j'ai laissé riche de 30 000 francs de rente. Monsieur de Pierrotin, a-t-il encore une place dans le coupé ? Répondit ironiquement Georges. Non, mon coupé est pris par un pair de France, le gendre de Monsieur Moreau, Monsieur le baron de Canalis, sa femme et sa belle-mère. Il ne me reste qu'une place d'intérieur. Diable, il paraît que sous tous les gouvernements, les pairs de France voyagent par les voitures à Pierrotin. Je prends la place d'intérieur, répondit Georges, qui se rappelait l'aventure de Monsieur de Sérisy. Il jeta sur Oscar et sur la veuve un regard d'examen et ne reconnut ni le fils ni la mère. Oscar avait le teint bronzé par le soleil d'Afrique, ses moustaches étaient excessivement fournies et ses favoris très amples. Sa figure creusée et ses traits prononcés s'accordaient avec son attitude militaire. La rosette d'officier, le bras de moins, la sévérité du costume, tout aurait égaré les souvenirs de Georges s'il avait eu quelques souvenirs de son ancienne victime. Quant à Madame Clapart, que Georges avait à peine jadis vu 10 ans consacrés aux exercices de la piété la plus sévère, l'avait transformée. Personne n'eût imaginé que cette espèce de sœur grise cachait une des Aspasies de 1797. Un énorme vieillard, vêtu simplement et d'une façon cossue, et dans lequel Oscar reconnut le père Léger, arriva lentement et lourdement. Il salua familièrement Pierrotin, qui parut lui porter le respect dû par tout pays aux millionnaires. « Ah, oh, c'est le père Léger! Toujours de plus en plus prépondérant !» s'écria Georges. « À qui ai-je l'honneur de parler ?» demanda le père Léger d'un ton sec. Comment ? Vous ne reconnaissez pas le colonel Georges, l'ami d'Ali Pacha ? Nous avons fait route ensemble un jour, avec le comte de Sérisy, qui gardait l'incognito. Une des sottises les plus habituelles aux gens tombés est de vouloir reconnaître les gens et de vouloir s'en faire reconnaître. Oh, vous êtes bien changé ! Répondit le vieux marchand de biens, devenu 2 fois millionnaire. Tout change, dit Georges. Voyez si l'auberge du Lion d'Argent et si la voiture de Pierrotin ressemblent à ce qu'elles étaient il y a 14 ans. Oh, Pierrotin a maintenant à lui seul les messageries de la vallée de l'Oise, et il fait rouler de belles voitures, répondit Monsieur Léger. C'est un bourgeois de Beaumont. Il y tient un hôtel où descendent les diligences. Il a une femme et une fille qui ne sont pas maladroites. Un vieillard d'environ 70 ans descendit de l'hôtel et se joignit aux voyageurs qui attendaient le moment de monter en voiture. « Allons donc, papa Rémer, dit Léger, nous n'attendons plus que votre grand homme. » Oh, le voici, dit l'intendant du comte de Sérisy en montrant Joseph Brideau. Ni Georges ni Oscar ne purent reconnaître le peintre illustre, car il offrait cette figure ravagée, si célèbre, et son maintien accusait l'assurance que donne le succès. Sa redingote noire était ornée d'un ruban de la Légion d'honneur, sa mise excessivement recherchée indiquait une invitation à quelque fête campagnarde. En ce moment, un commis, tenant une feuille à la main, sortit d'un bureau construit dans l'ancienne cuisine du Lion d'Argent et se plaça devant le coupé vide. « Monsieur et madame de Canalis, 3 places » cria-t-il. Il passa à l'intérieur et nomma successivement « Monsieur Bellejambe, 2 places » « Monsieur de Rébert, 3 places. Monsieur, votre nom, dit-il à Georges. »« Georges Marais, répondit tout bas l'homme déchu. » Le commis alla vers la rotonde devant laquelle s'attroupaient des nourrices, des gens de la campagne et de petits boutiquiers qui se disaient adieu. Après avoir empilé les 6 voyageurs, le commis appela par leur nom 4 jeunes gens qui montèrent sur la banquette de l'impérial et dit « Roulez !» pour tout ordre de départ. Pierrotin se mit à côté de son conducteur, un jeune homme en blouse, qui de son côté cria « Tirez !» à ses chevaux. La voiture, enlevée par les 4 chevaux achetés à Roy, gravit au petit trot la montée du faubourg Saint-Denis. Mais une fois arrivée au-dessus de Saint-Laurent, elle fila comme une malle-poste jusqu'à Saint-Denis en 40 minutes. On ne s'arrêta point à l'auberge au Talmous, et l'on prit à gauche de Saint-Denis la route de la vallée de Montmorency. Ce fut en tournant là que Georges rompit le silence que les voyageurs avaient gardé jusqu'alors en s'observant les uns les autres. « Oh, on marche un peu mieux qu'il y a 15 ans, » dit-il en tirant une montre d'argent. « Hein, père Léger ? » ?»« Oh, on a la condescendance de me nommer Monsieur Léger, » répondit le millionnaire. « Mais c'est notre blagueur de mon premier voyage à Presles, » s'écria Joseph Bridau. « Eh bien !» « Avez-vous fait de nouvelles campagnes en Asie, en Afrique, en Amérique ?» dit le grand peintre. « Bon, sacrebleu, j'ai fait la révolution de juillet, c'est bien assez car elle m'a ruiné. »« Ah, vous avez fait la révolution de juillet ?» dit le peintre. « Ça m'étonne pas, car j'ai jamais voulu croire, comme on le disait, qu'elle s'était faite toute seule. » « Comme on se retrouve, » dit M. Léger en regardant M. de Reybert. « Tenez, papa Reybert, voilà les clés de notaire à qui vous avez dû sans doute l'intendance des biens de la maison de Sérisy. Il nous manque Mistigri, maintenant illustre sous le nom de Léon de Lora, et ce petit jeune homme assez bête pour avoir parlé au comte des maladies de peau qu'il a fini par guérir et de sa femme qu'il a fini par quitter pour mourir en paix, » dit Joseph Bridau. « Ah, il manque aussi monsieur le comte, » dit Reybert. « Oh, je crois, » dit avec mélancolie Joseph Bridau, « que le dernier voyage qu'il fera celui-ci de près à l'Isle-Adam pour assister à la cérémonie de mon mariage. » « Il se promène encore en voiture dans son parc, » répondit le vieux Reybert. Sa femme vient-elle souvent le voir ? Demanda Léger. Oh, une fois par mois, dit Reybert. Elle affectionne toujours Paris, et elle a marié, le mois de septembre dernier, sa nièce, mademoiselle Durouvre, sur laquelle elle a reporté toutes ses affections à un jeune Polonais fort riche, le comte Laginski. Et à qui ? Demanda madame Clapart. Iront les biens de monsieur de Sérisy ? « À sa femme, qui l'enterrera, » répondit Georges. « La comtesse est encore très bien pour une femme de 54 ans. Elle est toujours élégante, et à distance, elle fait encore illusion. »« Elle vous fera longtemps illusion, » dit alors Léger, qui paraissait vouloir se venger de son mystificateur. « Je la respecte, » répondit Georges au père Léger. « Mais à propos, qu'est devenu ce régisseur qui, dans le temps, a été renvoyé ?»« Moreau, » reprit Léger. « Oh, mais il est député de l'Oise. Oh, c'est le fameux centrier Moreau de l'Oise, » dit Georges. « Oui, » reprit Léger, « monsieur Moreau de l'Oise. Il a un peu plus travaillé que vous à la Révolution de juillet. Il a fini par acheter le magnifique terre de Pointel entre Presles et Beaumont. Oh, à côté de celle qu'il régissait auprès de son ancien maître, c'est de bien mauvais goût, dit Georges. Ne parlez pas si haut, dit M. le Reybert, car Madame Moreau et sa fille, la baronne de Canalis, sont, ainsi que son gendre, l'ancien ministre, dans le coupé. Mais quelle dot a-t-il donc donné pour faire épouser sa fille à notre grand orateur ? Oh, mais quelque chose comme 2 millions, dit le père Léger. Il avait du goût pour les millions, dit Georges en souriant et à voix basse. Il commençait sa pelote après elle. Ne dites rien de plus sur Monsieur Moreau, s'écria vivement Oscar. Il me semble que vous devriez avoir appris à vous taire dans les voitures publiques. Joseph Bridau regarda l'officier Manchot pendant quelques secondes et s'écria « Monsieur n'est pas ambassadeur, mais sa Rosette nous dit assez qu'il a fait du chemin, et noblement, car mon frère et le général Giraudeau vous ont souvent cité dans leur rapport. » « Oscar Husson !» s'écria Georges. « Ah, ma foi, sans votre voix, je ne vous aurais pas reconnu. »« Ah, c'est monsieur !» qui a si courageusement arraché le vicomte Jules de Sérisy aux Arabes, demanda Rébert et à qui Monsieur le Comte a fait avoir la perception de Beaumont en attendant la recette de Pontoise. Oui, monsieur, dit Oscar. Eh bien, dit le grand peintre, vous me ferez, monsieur, le plaisir d'assister à mon mariage à l'Isle-Adam. Et qui épousez-vous? Demanda Oscar. Mademoiselle Léger, répondit le peintre, la petite fille de Monsieur de Rébert. C'est un mariage que Monsieur le comte de Sérisy a bien voulu préparer pour moi. Je lui devais déjà beaucoup comme artiste, et avant de mourir, il a voulu s'occuper de ma fortune, à laquelle je ne songeais point. Le père Léger a donc épousé, dit Georges, ma fille, répondit Monsieur de Rébert. Et sans dot, il a eu des enfants. Une fille, c'est bien assez pour un homme qui s'est trouvé veuf et sans enfants, répondit le père Léger, tout comme Moreau, mon associé, j'aurais pour gendre un homme célèbre. Et, dit Georges en prenant un air presque respectueux avec le père Léger, vous habitez toujours l'Isle-Adam ? Oui, j'ai acheté Cassan. « Eh bien, je suis heureux d'avoir pris ce jour-ci pour faire la vallée de l'Oise, » dit Georges. « Vous pouvez m'être utile, messieurs. »« En quoi ?» dit Monsieur Léger. « Ah, voici, » dit Georges. « Je suis employé de l'Espérance, une compagnie qui vient de se former et dont les statuts vont être approuvés par une ordonnance du roi. Cette institution donne au bout de 10 ans des dots aux jeunes filles, des... rente viagère aux vieillards, elle paie l'éducation des enfants, elle se charge enfin de la fortune de tout le monde. Oh, je le crois, dit le père Léger en souriant, en un mot, vous êtes courtier d'assurance. Non, monsieur, je suis inspecteur général, chargé d'établir les correspondants et les agents de la compagnie dans toute la France, et je perds en attendant que les agents soient choisis, car c'est chose aussi délicate que difficile que de trouver d'honnêtes agents. Mais comment donc avez-vous perdu vos 30 000 livres de rente ? Dit Oscar à Georges. Comme vous avez perdu votre bras, répondit sèchement l'ancien clerc de notaire à l'ancien clerc d'avoué. Vous avez donc fait quelque action d'éclat avec votre fortune, dit Oscar avec une ironie mêlée d'aigreur. Parbleu, j'en ai malheureusement fait beaucoup, trop d'actions. J'en ai à vendre. On était arrivé à Saint-Leu-Taverny, où tous les voyageurs descendirent pendant qu'on relayait. Oscar admira la vivacité que Pierrotin déployait en décrochant les traits des palonniers pendant que son conducteur défaisait les guides des chevaux de volée. « Ce pauvre Pierrotin, pensa-t-il, Il est resté comme moi, pas très avancé dans la vie. Georges est tombé dans la misère. Tous les autres, grâce à la spéculation et au talent, ont fait fortune. Déjeunons-nous là, Pierrotin, dit à haute voix Oscar, en frappant sur l'épaule du messager. Oh, je suis pas le conducteur, dit Pierrotin. Alors qu'êtes-vous? Demanda le colonel Husson. L'entrepreneur, répondit Pierrotin. Alors, ne vous fâchez pas avec de vieilles connaissances, dit Oscar en montrant sa mère et sans quitter son protecteur. Ne reconnaissez-vous pas, madame Clapart? Ce fut d'autant plus beau à Oscar de présenter sa mère à Pierrotin qu'en ce moment madame Moreau de Loise, descendue du coupé, regarda dédaigneusement Oscar et sa mère en entendant ce nom. Oh, ma foi, madame, je ne vous aurais jamais reconnue, ni vous, monsieur. Aïe, il paraît que ça chauffe dur en Afrique. L'espèce de pitié que Pierrotin inspirait à Oscar fut la dernière faute que la vanité fit commettre au héros de cette scène, et il en fut encore puni, mais assez doucement. Voici comment. 2 mois après son installation à Beaumont-sur-Oise, Oscar faisait la cour à Mademoiselle Georgette Pierrotin, dont la dot était de 150 000 francs, et il épousa la fille de l'entrepreneur des messageries de l'Oise vers la fin de l'hiver 1838. L'aventure du voyage après l'avait donné de la discrétion à Oscar. La soirée de Florentine avait raffermi sa probité. Les duretés de la carrière militaire lui avaient appris la hiérarchie sociale et l'obéissance au sort. Devenu sage et capable, il fut heureux. Avant sa mort, le comte de Sérisy obtint pour Oscar la recette de Pontoise, la protection de M. Moreau de Loise, celle de la comtesse de Sérisy et de M. le baron de Canélis, qui tôt ou tard deviendra ministre, assurent une recette générale à M. Husson, en qui la famille Camusot reconnaît maintenant un parent. Oscar est un homme ordinaire, doux, sans prétention, modeste, et se tenant toujours, comme son gouvernement, dans un juste milieu. Il n'excite ni l'envie ni le dédain. C'est enfin le bourgeois moderne. Paris, février 1842.